Vous écoutez le podcast Mon prochain emploi, le premier podcast qui s'adresse aux femmes cadres ou en devenir dans le domaine du salariat et du recrutement. Bienvenue. Je suis Lingo Laza et je suis ravie de partir pour une belle aventure avec vous. À la découverte de femmes pour discuter de leur parcours, de leur réussite et de leurs difficultés. Et également pour interroger des experts sur des sujets autour du salariat, du recrutement et du monde des entreprises. Un nouvel épisode sera publié deux fois par mois, les lundis, à l'heure du déjeuner. Pensez à vous abonner. Pour vous aider à trouver votre prochain contrat de travail, vous pouvez dès à présent mettre en place vos premières actions à l'aide de l'e-book sur les 10 points à vérifier avant de démarrer votre recherche d'emploi grâce au lien dans les notes. Si vous connaissez des femmes qui en ce moment s'interrogent sur leur avenir professionnel, partagez avec elles l'accès à ce podcast. Profitez-en pour mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez en ce moment. Mille merci à vous de nous rendre visibles. Pour répondre mieux à vos attentes, je vous invite à laisser vos commentaires dans le lien de sondage que vous trouverez dans les notes de l'épisode. 5 minutes pour 15 questions. Aujourd'hui, je suis très contente car nous arrivons à notre 10e épisode d'interview. Et c'est Aurore Mazza qui m'a fait l'honneur de venir discuter avec moi. Elle a créé Comme de Mom, une communauté de mamans et d'entrepreneurs. Et auparavant, écoutez son parcours, depuis la chimie au RH en passant par le commerce. En plus d'un blog qui s'appelle La Fée Biscotte avec plus de 35 000 followers. Le plus de son parcours, c'est qu'elle se pose et réfléchit à chaque étape et mène plusieurs projets en parallèle. Peut-être que vous avez aussi envie de devenir entrepreneur et qu'il vous manque des compétences. Vous pouvez dans ce cas vous inspirer d'Aurore et avancer par étapes. Bonne écoute. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Comment vas-tu ce matin?
Très bien, merci. Et toi?
Bah écoute, bien aussi, il fait beau.
Ah, t'as de la chance, même si c'est pas le cas.
Je suis pas sûre que ce soit très chaleureux pour aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un petit peu de soleil, alors ça fait du bien.
C'est déjà ça.
Je te remercie de venir à mon micro ce matin. Je suis ravie de pouvoir aller un petit peu plus loin pour te connaître ce matin, puis parler de ton expérience professionnelle sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, et puis on va passer en revue les différentes étapes de ton parcours ensuite.
Ok, donc moi je suis Aurore Mazza, je suis aujourd'hui consultante et formatrice en web marketing, et j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à développer leur activité en ligne par le biais de la création de sites internet, l'animation des réseaux sociaux, le référencement et la rédaction web. Et je suis maman de 4 enfants.
D'accord, mais ça fait beaucoup de choses. Aurore, je vais te poser les 3 questions que je pose à mes invités pour démarrer cette discussion. Est-ce que tu peux me donner 3 prétextes à discussion pour entrer plus facilement en contact avec toi? Ça peut être des mots ou des expressions qu'on pourrait utiliser pour aller discuter avec toi si on te voyait dans une soirée de réseautage, par exemple.
D'accord, donc en vrai, il faut que je sorte de ma carapace du digital.
Oui, ça peut être le digital, ça peut être autre chose. Hein. Ça, voilà, si on te croisait dans une soirée, on est en train d'échanger, voilà, je présente aux autres Aurore et j'aimerais bien leur dire, voilà, Aurore fait ceci, aime cela, et vous pouvez discuter avec elle sur ça pour démarrer une discussion et entrer en relation avec les autres.
Eh bien, écoute, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc on va dire, peu importe le sujet, donc je discute, il n'y a pas de problème. Mais je pense que si ça tourne autour du grignotage, je suis partante. Mange-moi du temps.
Ce sont de bons moments aussi, on prend.
Ça. Après, tout ce qui est marketing digital, qui est vraiment mon activité, donc là, j'ai toujours cœur à échanger. Et puis après, sinon, il y a au fond de moi ma sensibilité de maman. Donc, si on parle des enfants, je plonge aussi.
On a bien vu que tu les aimais bien, tes enfants. Donc, voilà, tu partages effectivement avec eux sur la Fée Biscotte. Est-ce que tu as un mentor? Et si oui, comment tu l'as trouvé?
Alors, j'ai un mentor, mais qui ne sait pas que c'est mon mentor. Hein, parce que souvent, j'ai pas quelqu'un, je ne me fais pas accompagner par quelqu'un, mais j'aime beaucoup Martin Latulippe. Je ne sais pas si tu connais.
Je connais de nom, mais je n'ai pas encore été regarder plus loin que ça, ce qu'il propose.
Oui, alors c'est un coach, il est conférencier, il a sorti des livres et il accompagne aussi vraiment tous les entrepreneurs sur un travail à la fois presque psychologique. Il nous apprend à prendre confiance en nous, à prendre conscience en fait qu'il faut prendre son temps quand on lance un projet. il ouvre beaucoup les esprits, et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et après, il est là pour donner des bons conseils aussi en termes de marketing et de digitalisation. Donc ça me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup parce qu'il est... Il y a beaucoup de bienveillance qui se dégage de cette personne.
Bon, bah écoute, on mettra aussi les références, comme ça tout le monde pourra aller voir et faire la connaissance de Martin Latulippe. Quelle est la dernière décision difficile que tu as eu à prendre sur le plan professionnel ?
J'ai bien fait de préciser sur le plan professionnel, parce que sinon je t'aurais dit qu'on a mangé hier soir. C'est toujours la question à la maison, c'est qu'est-ce qu'on mange ? Sur le plan professionnel, la question la plus difficile... Eh bien, je crois que ça a quand même été le jour où j'ai quitté mon CDI. Parce que même s'il y avait une part de moi qui était confiante parce que j'avais un projet à côté, le fait de dire au revoir à un CDI et à un salaire assuré, oui. C'est quand même, on y réfléchit quand même à deux fois.
Bon, même si aujourd'hui, effectivement, tu es beaucoup plus à l'aise. Et,
plus voilà. Épanouie, oui, vraiment. Je regrette pas. Mais sur le coup, on réfléchit quand même. On se dit, est-ce que je fais bien ? Est-ce que c'est pas risqué ? Machin. On a quand même des doutes.
Alors du coup, est-ce que tu as toujours été dans le domaine du digital ou est-ce que tu as fait autre chose pour démarrer ta carrière professionnelle ?
Alors non, j'ai pas toujours été dans le digital. J'ai un parcours vraiment atypique parce qu'à la base, j'ai fait des études dans les ressources humaines.
Oui.
Et j'étais assistante RH pendant presque 10 années en fait. J'ai été diplômée, je suis rentrée dans une entreprise et j'ai fait mon parcours professionnel dans la même entreprise.
Et tu t'occupais de quel aspect des ressources humaines ? Parce qu'il y a de la formation, il y a de la paie, il y a le recrutement.
Alors moi, c'était plus la partie formation, recrutement intérim, recrutement CDI. J'avais ce qu'on appelait chez nous la première partie paye, c'était toute la saisie et le contrôle des pointages. Je ne faisais pas la partie finalisation parce qu'on avait un service comptable qui finalisait cette partie-là.
Tu as aimé faire ça parce que ça a duré quand même 10 ans, c'était quand même un poste...
Ben écoute, c'était mon premier job et j'ai adoré, il y avait une super ambiance, on était vraiment très bien et j'aimais beaucoup. Mais au bout de, je ne sais plus exactement combien de temps, l'entreprise a été rachetée, nouvelle direction. Il y a eu un grand coup de nettoyage qui a été fait dans l'entreprise. Mes précieux collègues sont partis.
Ah.
Et je me suis retrouvée avec de nouveaux collègues. Et c'est là où j'ai commencé à vouloir autre chose parce que ça ne me correspondait plus. L'ambiance n'était plus la même et je ne me sentais plus du tout à ma place.
D'accord, effectivement, c'est difficile après de pouvoir poursuivre. Et ça arrive malheureusement souvent quand on est racheté. Parce que du coup, il y a de nouvelles configurations qu'on n'avait pas forcément quand on a démarré.
Oui.
Alors du coup, une petite graine se plante dans ta tête. Comment est-ce que tu le vis ? Qu'est-ce que tu fais pour te dire, ben voilà, je vais faire autre chose de ma vie que cette partie-là, ressources humaines ?
Eh bien, écoute, moi, j'ai toujours mon objectif. J'étais assistante et mon objectif, c'était de devenir, en fin de carrière, directrice RH. Donc, ça, c'était mon objectif premier.
Oui.
Et je savais qu'il fallait attendre parce que j'étais quand même jeune. J'avais la trentaine et je me suis dit, tu peux pas, à moins d'avoir vraiment un gros coup de chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais sinon, c'est plus un poste de fin de carrière. Donc, je savais qu'il fallait que je sois impatiente et je me disais, qu'est-ce que je peux faire parce que j'étais pas épanouie. J'ai toujours un peu été intéressée par des activités en ligne et je me suis dit, bon bah tiens, je pourrais peut-être un jour lancer une boutique en ligne et puis pourquoi pas cumuler les deux.
Oui.
Et c'est ce que j'ai fait au départ, mais j'avais fait ça avant d'avoir mon deuxième enfant.
Mm-hmm.
Et quand il est arrivé, ben, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué parce que tu sais, j'avais mon travail en entreprise et le soir, je faisais des colis parfois jusqu'à minuit. Il fallait que je dépose en bureau de poste le lendemain et je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc j'ai fait ça un an et demi. J'ai revendu mon entreprise, j'ai replongé en fait dans les RH, hein. Je me suis dit, bon, il va falloir qu'on continue là-dedans, mais ça cogitait quand même, tu vois, je cherchais quand même quelque chose d'autre encore.
Effectivement, ça devait pas être évident quand même de gérer tout, parce que le fait d'avoir des enfants et quand même 35 heures à plein temps dans un métier qui est quand même, peut être prenant,
oui.
Et de se dire, bon, j'y retourne quand même, c'est pas forcément évident non plus.
Non, non, mais bon, après, tu sais, on n'avait pas le choix. Et puis, c'était la sécurité. Je savais que j'avais mon fixe, j'avais un salaire qui rentrait. Et bon, je me suis dit, c'est pas grave. J'avais mon objectif en tête. Et puis, au pire des cas, je me suis dit, j'aurais peut-être une bonne idée qui va surgir. On va l'attendre.
Alors, est-ce que pendant cette période-là, une fois que tu y retournes, tu t'es mise à chercher un autre travail dans une autre entreprise? Ou est-ce que tu dis, bon, j'attends un peu, je réfléchis, je vais voir ce qui est possible de faire?
Eh ben, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux parce que je savais qu'au sein de mon entreprise, pour évoluer, ce ne serait pas possible. Du coup, je cherchais ailleurs et en parallèle, j'étais en pleine réflexion pour savoir ce que je voulais faire.
D'accord. Pour nos auditrices, tu es sur le secteur de la Moselle-Est. Est-ce qu'en termes d'opportunités, tu savais qu'il pouvait y en avoir sur ce secteur-là ou pas? Parce qu'on on connaît pas forcément bien les entreprises qui sont implantées sur le côté proche de la, ce qu'on appelle la SAR, enfin en Allemagne.
Oui, oui. Eh bien, écoute, la chose qui est un peu compliquée, c'est par rapport à mon objectif, c'est que les directeurs ou directrices RH, il y en a un dans une entreprise.
Oui.
Donc, à moins que ce soit une retraite, un licenciement ou quelqu'un qui démissionne, c'est un peu compliqué, tu vois. Et du coup, tu te dis que même s'il y a des entreprises et qu'il y a des postes, ben, est-ce qu'ils vont être à pourvoir au bon moment? Est-ce que tu vas avoir le profil qui correspond? J'avais l'impression un peu de jouer à la loterie.
D'accord.
Quand je regardais, je voyais beaucoup, beaucoup de propositions, mais c'était en Alsace. Et moi, ça m'aurait fait déménager parce que c'était pas possible que je fasse 2 heures de route par jour, simplement à l'aller. Donc, je sais pas possible et un déménagement inenvisageable pour moi.
D'accord. Comment tu as géré ça? Tu as attendu longtemps avant de te lancer dans autre chose? Et si oui, dans quoi tu es partie du coup?
Eh bien, écoute, non, j'ai pas attendu tellement longtemps parce que on va dire que ce vers quoi je me suis orientée après, c'est venu à moi naturellement. Je t'ai dit que j'avais eu donc mon fils et j'avais vendu mon entreprise, enfin ma petite boutique en ligne. Mm-hmm. Et par rapport à mon enfant, je me suis rendu compte qu'il avait des allergies alimentaires.
Oui.
Et j'étais un peu perdue là-dedans. Du coup, je me suis dit, bon, ben, si j'ai du mal à trouver des recettes, à trouver des choses à acheter, enfin, j'étais vraiment perdue. En tant que maman, je me suis dit, je ne dois pas être la seule. Donc, j'ai créé un blog. Donc, j'ai fait un petit site internet et je partageais mes trouvailles, mes recettes. Mm-hmm. Et à partir de là, j'ai réussi à fédérer toute une communauté autour de ce blog. Et je me suis dit que j'allais continuer là-dedans parce que ça me plaisait bien. J'avais créé tout le site moi-même, j'animais toutes les réseaux sociaux de la communauté et j'arrivais à avoir des partenariats avec des marques,
oui,
rémunérées ou sous forme de tests de produits. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un truc qui me plaît bien. Et puis apparemment, tout le monde ne sait pas faire. Tout le monde n'a pas cette facilité pour engager un public, une communauté sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas ça que je devrais faire? Et c'est à partir de là où tu vois la deuxième graine a commencé à pousser. Et je me suis dit, bon, bah tiens, ça, c'est peut-être quelque chose à faire. Et c'est ce vers quoi, après, je me suis orientée.
Alors, ce blog, il s'appelle comment, alors?
C'est La Fée Biscotte.
Alors, on y trouve quoi? Donc, tu as parlé de recettes, parce qu'effectivement, quand on a des intolérances alimentaires, des fois, on ne sait pas forcément quoi cuisiner,
oui,
ou comment adapter les recettes.
Oui.
Je connais, parce que j'ai le même problème d'intolérance alimentaire aussi, hein, gluten, lactose, ah, caséine, oui, tu vois, c'est, voilà. Donc, ça me parle totalement. Et effectivement, c'est pas toujours évident de trouver des recettes qui nous conviennent. Donc, tu partages des recettes et puis aussi ton quotidien, peut-être, avec ces difficultés d'avoir un enfant en bas âge.
Oui, de tout. Parce qu'au départ, c'était vraiment orienté que allergie et j'ai vraiment élargi. Au début, par exemple, il était allergique au lactose, il était allergique à l'œuf, mais on a réussi à le réintroduire, donc ça s'est assoupli. Maintenant, il a d'autres allergies, mais elles sont un peu moins contraignantes, comme les lentilles, le pois, des choses comme ça. Donc du coup, j'ai commencé à élargir, parce que j'avais pris goût à la rédaction, j'avais pris goût à tout ça. Donc là, maintenant, c'est vraiment un blog lifestyle. Il y a des recettes avec allergènes, sans allergènes, il y a des recettes végétariennes, parce qu'entre-temps, je suis devenue végétarienne. Il y a le partage de nos sorties, du quotidien, des coups de gueule, des coups de cœur. C'est vraiment très, très large maintenant.
Alors du coup, de ce que j'entends que tu expliques, tu as quand même du coup acquis pas mal de compétences, c'est-à-dire qu'effectivement créer un site internet avec WordPress, c'est pas forcément facile, créer une communauté à travers les réseaux sociaux non plus, établir des partenariats avec des marques, tu allais les chercher ou tu y venais tout seul?
Au début, j'allais toquer un peu aux portes des agences pour dire coucou, je suis là, je veux bien faire quelque chose si c'est possible. Et puis maintenant, c'est eux qui viennent vers moi parce que mon blog est bien référencé, parce qu'il y a la communauté derrière. Aujourd'hui, il y a sur l'ensemble des réseaux sociaux de La Fée Biscotte, il y a à peu près 36 000 personnes qui me suivent.
D'accord.
Donc du coup, maintenant, c'est les marques qui viennent vers moi pour me solliciter.
Toujours autour de l'enfance, en fait, par rapport aux enfants.
Oui.
D'accord. Du coup, ça, c'est... D'accord, c'est quelque chose que tu fais de façon, on va dire, bénévole. Tu ne gagnes pas d'argent à part le partenariat là-dessus.
Si.
Si, d'accord.
Si, il y a des partenariats où c'est des tests de produits et il y en a d'autres où je suis rémunérée. Il y a des collaborations pour lesquelles je reçois une rémunération.
D'accord. Bon, donc, du coup, ça, effectivement, la petite graine, elle a bien, c'est bien développée.
C'est ça.
Et tu as pris goût, du coup, au fait de pouvoir faire ça. Je pense que ça aussi a permis de gérer ton temps peut-être différemment par rapport à un travail salarié.
Alors, attention, parce que j'ai lancé ça, mais je travaillais toujours en tant qu'assistante RH.
D'accord.
J'avais ça et puis, du coup, je recevais un petit peu d'argent au début. C'était vraiment des tout petits partenariats. Ça me faisait même pas une sortie, en fait. Hein. J'avais 70 euros pour parler chiffres. C'était un partenariat dans le mois. Et puis voilà, mais moi, j'étais contente. Ça me faisait un petit truc.
Ouais.
Et après, quand j'ai pris conscience du coup que j'avais gagné ces compétences et qu'elles pouvaient être utiles à quelqu'un, j'ai créé en auto-entreprise ce que j'appelais une agence de communication spécialisée en web marketing, où là, je proposais les mêmes services que je propose toujours aujourd'hui pour accompagner les entreprises. Et ça, je l'ai fait en parallèle toujours de mon job d'assistante RH jusqu'en 2018. J'arrivais vraiment plus au niveau du travail. Mon job ne me plaisait plus, l'ambiance, tout ça, ça devenait trop, trop pesant. J'ai eu la possibilité un jour de quitter. Et c'est là que, du coup, depuis 2018, je suis exclusivement sur la partie digitale.
D'accord. Là, du coup, tu fais vraiment quelque chose qui est purement digital. Et là, tu as commencé, du coup, à chercher des clientes, que ce soit des entrepreneurs qui sont en leur compte ou des entreprises avec lesquelles tu pouvais proposer tes services, puisque tu venais d'acquérir quand même quelques années d'expérience en ligne avec la Fébiscotte.
C'est ça, et puis j'avais quand même des clients à côté parce que j'avais commencé à démarcher et puis j'avais des clients qui me permettaient de me sortir un salaire. Donc quand je suis partie en 2018, j'étais assez confiante parce que ça fonctionnait et que je travaillais de 4h à 7h le matin avant de réveiller les enfants. Après, je réveillais les enfants, je les ramenais à la crèche, à l'école, j'allais travailler et quand je rentrais le soir, je bossais un petit peu ou le week-end. Et avec ça, j'arrivais à me sortir un salaire. Donc je me suis dit, si je suis à temps plein, ça devrait être bon. Donc c'est pour ça que je suis partie confiante.
Oui, mais il faut quand même avoir le courage de se réveiller à 4h du matin pour réfléchir sur les projets des clientes, des clients.
Mais écoute, moi je suis plus matinale, donc ça m'allait bien.
Bon, écoute, tu as trouvé ton équilibre en tout cas en faisant de cette façon-là. Et donc depuis 2018, donc ça va faire 3 ans, tu proposes quoi aux clientes ? Créer leur site internet, gérer leurs réseaux sociaux à leur place, c'est-à-dire trouver c'est les ça. Idées de postes, participer aux commentaires, en tout cas répondre aux commentaires des gens, c'est ça ?
Là, c'est une prestation de service où j'interviens sur différents piliers. Il y a la création de site internet ou la refonte, parce que parfois, le site internet, bon, certaines entreprises, il date un petit peu, il n'est plus trop tendance ou d'actualité, donc on retravaille ça. Pour les réseaux sociaux, c'est vraiment la recherche de publication, mais c'est surtout l'optimisation et la mise en place d'une stratégie. Parce que tout le monde sait publier sur Facebook, sur Instagram. Tout le monde, à partir du moment où on a une photo, on sait écrire, on peut le faire, il n'y a pas de problème.
Oui.
Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut mettre en place une certaine stratégie pour que ce soit efficace. Parce que si je suis une entreprise et que je fais une publication lambda et qu'il n'y a personne qui vient publier, commenter ou qui connaît ma présence sur les réseaux sociaux, je fais ça un peu pour rien, c'est une perte de temps, une perte d'argent. Moi, je suis là pour leur dire, écoutez, il faut publier ce type de contenu à telle heure, il faut l'orienter comme ça, pour avoir certains résultats, pouvoir après gagner de nouveaux clients, réaliser plus de ventes et acquérir une certaine notoriété. Ça, c'est ce que je fais.
D'accord. Tu as quel type de clients aujourd'hui ? Des entreprises du secteur où tu habites, sur la Moselle-Est ou dans d'autres régions de France?
Écoute, moi, je suis un peu multicasquette parce qu'au départ, comme j'avais lancé ça sous le nom d'une agence web marketing, j'avais beaucoup de clients, même à l'international. J'avais des clients en Israël, j'avais des clients en Suisse, des clients en France, pas forcément en local. Ça, c'était à la base. Sauf que en 2019, je suis tombée enceinte. C'était une grossesse surprise, doublement surprise parce que c'était des jumeaux.
Ah oui.
Donc du coup, j'ai levé le pied parce que avec ma grossesse, ça devenait compliqué pour moi d'être assise, ne serait-ce qu'avec mon ventre. J'avais vraiment du mal à être assise au bureau et à travailler.
Oui.
Les choses ont fait que j'ai des clients qui sont venus, qui sont partis. Mon activité a vraiment ralenti. Et je me suis encore une fois remise en question sur les prestations que je faisais, sur qui était ma clientèle. Parce que j'ai beau dire à mes clients qu'il faut clairement identifier leur cible. Mm-hmm. C'est quelque chose que je ne faisais pas, enfin que je ne prenais pas le temps de faire pour moi. Puis comme là, j'étais couchée sur mon canapé avec mon gros bidon, j'avais le temps de cogiter. Du coup, je me suis rendu compte que la majorité de mes clients étaient des femmes.
Oui.
Et qu'il était peut-être intéressant pour moi de justement tourner toute ma communication vers les femmes. C'est comme ça que j'ai décidé en fait de passer, avant c'était AMRC Consulting. Depuis cette année, février, j'ai décidé de devenir comme de mom pour la communauté de mompreneurs et vraiment de toucher toutes les femmes et les mamans entrepreneurs parce que finalement c'est elles qui venaient naturellement à moi. Et du coup aujourd'hui, je travaille à l'extérieur avec des entreprises en local que je vais former directement, former leur service marketing. Et sinon, c'est exclusivement des entreprises que je ne connais pas, parce qu'elles ne sont pas dans mon secteur régional. Beaucoup de femmes entrepreneurs ou des entreprises dans l'e-commerce.
D'accord.
Et là, j'ai des hommes aussi.
Mais c'est bien aussi parce qu'ils ont aussi besoin de conseils. Il n'y a pas de raison de restreindre. Mais effectivement, tout ce que tu as construit là et là où les femmes se retrouvent en toi fait qu'elle vient plus facilement vers toi. Alors.
C'est ça.
Du coup, je voulais, parce que c'était aussi ce qui, moi, m'intéressait dans ton parcours, c'est que là, souvent, quand on a des personnes comme toi qui font du conseil auprès d'entreprises ou d'autres sur la partie digitale, rares sont celles qui font des formations vraiment destinées au service marketing, parce que une entreprise, quand elle a déjà embauché une ou deux personnes dans son service, elle considère que c'est bon, ces personnes-là vont s'occuper de toute la partie digitale, la stratégie, le lien avec les services commerciaux, etc. Alors que toi, tu viens quand même en plus être consultante dans ces entreprises-là. Comment ça se passe? Qu'est-ce que les chefs d'entreprise cherchent exactement et comment est-ce que tu les accompagnes pour que le personnel qu'ils ont déjà choisi, qui sont dans leur entreprise, s'épanouissent encore mieux et apportent encore plus à l'entreprise?
Et là, en fait, dans les entreprises, il y a deux possibilités. Soit c'est une personne qui a été recrutée pour ce poste, vraiment, et qui est exclusivement sur le marketing. L'entreprise, au départ, elle n'était pas forcément digitalisée. C'est quelque chose qui se met en place ces dernières années. Mm-hmm. Mais si la personne, elle est déjà là depuis une longue date, elle n'est peut-être pas forcément sensibilisée au métier digital. Donc, moi, je viens pour l'aider à avoir une nouvelle vision et à lui partager justement les compétences, à lui expliquer comment faire, qu'est-ce qu'elle doit surveiller comme indicateur, quels sont les résultats qu'elle peut obtenir pour cet objectif et tout ça et tout ça. Et ou alors, on a aussi des personnes qui sont là un peu par la force des choses, c'est le recrutement, la personne, elle est partie du service, mais il y avait l'assistante à l'accueil qui était très bien. Enfin, j'exagère un petit peu, mais souvent je vois c'est ça, c'est des personnes qui sont passées d'un service à l'autre et parce qu'elles sont compétentes et parce qu'elles ont envie de savoir. Et je dénigre pas, hein, c'est vraiment juste pour dire que il y a des personnes qui sont recrutées, il y en a d'autres qui sont un peu là par la force des choses et qui s'y plaisent. Mais pour aller un peu plus loin, il y a un moment où en fait l'entreprise elle veut passer au niveau supérieur, et ben il faut acquérir des compétences supérieures. Et c'est là où moi, je viens intervenir vraiment en tant que consultante. Dernièrement, j'étais par exemple en Alsace. J'ai formé le service marketing France et Italie de la marque Fossil. Mm-hmm. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'eux, ben, ils étaient arrivés à un palier où ils n'arrivaient plus. Leur vision était bloquée. Tu sais, quand on est trop bloqué dans une routine, on n'arrive plus à trouver de l'inspiration. Il faut ramener un petit peu d'air frais pour voir autrement. Et ben là, j'ai passé 2 jours avec eux et on a retravaillé toute la partie communication digitale et ça... Ça leur a permis de voir les choses autrement.
Alors, juste, la marque Fossil fait des accessoires mode, hein, homme-femme.
Oui, des bijoux.
Voilà. Je connais la marque pour avoir déjà acheté des objets chez eux et les avoir offerts. Et ça m'avait beaucoup plu. Donc, ça me dit quelque chose. Il y a combien de personnes, du coup, qui ont participé à ces 2 journées de formation avec toi?
Alors là, c'était 2 personnes.
D'accord. Donc, c'est comme quasiment un cours particulier, en fait. Hein,
où... C'est exactement ça. C'est vraiment personnalisé.
Et du coup, elles vont pouvoir en fait poser toutes les questions qu'elles ont besoin et pouvoir te poser des questions et avoir des réponses. Et du coup, c'est très très pratique en fait, puisque elles vont pouvoir te poser des questions sur leur usage quotidien de ces outils-là. Et toi, tu vas pouvoir les aiguiller sur ce qui est potentiellement mieux en termes d'action.
C'est ça. Si tu veux, on avait identifié en amont ce qu'elles avaient besoin. Donc moi, j'ai établi tout un plan de formation. Mais à l'intérieur du plan de formation, on avait des échanges. Mmh. En fonction de comment qu'on avance, si elles ont des questions ou si elles ont envie de voir quelque chose d'un peu plus poussé ou pendant qu'on développe, il y a peut-être quelque chose qui va leur venir, dire « Ah, même ça, j'aurais bien voulu savoir. » Oui, ben pas de souci, on peut le faire. On a un peu de temps, donc on en reparlera demain. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Ça fait qu'elles ont vraiment eu quelque chose de personnalisé. Alors que si maintenant, par exemple, on s'inscrit à une formation dans un centre de formation, ça va être quelque chose de type.
Oui.
Sur le programme de la journée, il y a peut-être 20% qui vont vous intéresser, alors qu'en faisant appel à mes services, c'est vraiment du clé en main.
C'est ça aussi qui m'intéressait dans tes propositions, parce que moi, par exemple, j'étais responsable communication longtemps. Par contre, j'ai travaillé dans des grandes entreprises et les sièges sociaux étaient à l'étranger. Et du coup, on n'avait pas en fait cette partie digitale. Et du coup, moi, j'ai dû apprendre, enfin, j'essaie de rattraper en fait mon retard, parce que justement, dans mes missions à l'époque, je n'ai pas pu mettre le pied à ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est comme tu dis, c'est que on peut, grâce au jeu de la mutation en interne, parce que c'est bien aussi de pouvoir bouger en interne, quand même arriver à rattraper des connaissances, des compétences qu'on n'avait pas et qui peuvent nous être utiles, passer des compétences supplémentaires et être utiles à l'entreprise.
Oui.
Et ça donne un engagement supplémentaire de la part des personnes qui sont aussi formées.
C'est vrai, c'est vrai. Et puis souvent, quand on arrive un petit peu, comme tu dis, sur le système des chaises, eh ben, je pense qu'on a encore plus de motivation et de niaque parce qu'on veut faire ses preuves. Donc, on est là, on a envie d'aller chercher ces nouvelles compétences. Donc, c'est l'occasion ou jamais.
Effectivement, c'est, enfin, moi je trouve ça super de pouvoir effectivement bénéficier de ça. Tu interviens sur du coup quel secteur, parce que du coup tu te déplaces sur 2 jours.
Oui, alors là j'essaie de limiter quand même dans un secteur géographique assez proche de chez moi pour les déplacements, parce que avec les enfants c'est un peu compliqué. Mais après j'interviens sans limite en visio.
D'accord.
Je peux faire des accompagnements en visio. Dernièrement, j'avais fait un accompagnement pour un camping dans le sud de la France. Et du coup, on a fait ça en visio. Donc, il n'y a pas de problème.
D'accord. Donc, effectivement, aujourd'hui, les outils sont quand même à disposition.
Tout est faisable.
Qu'est-ce qui te plaît, du coup, dans cette nouvelle façon de faire les choses? Parce qu'au début, tu avais commencé un peu en étant autodidacte. Aujourd'hui, tu as professionnalisé, tu arrives à gagner ta vie avec ça. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu posais des questions et que tu essayais de faire ta petite boutique de nail art et aujourd'hui où tu as pleinement dessus? Comment est-ce que tu as évolué?
Mais écoute, j'y suis allée vraiment progressivement. Donc, j'ai solidifié mes bases. J'ai continué à me former et à m'informer et je le fais encore maintenant. Je pense que j'ai grandi avec mon entreprise et c'est pour ça que j'ai professionnalisé, parce qu'au départ, j'étais à tâtons, j'avais même pas de logo, tu vois, j'avais écrit mes petites lettres sur un truc et puis voilà, j'allais démarcher comme ça, qui voudra bien travailler avec moi, qui voudra bien me faire confiance. Mais aujourd'hui, avec les retours que j'ai, mon expertise, je démarche des entreprises un peu plus grandes parce que j'ai un peu plus confiance en moi.
Oui.
Puis après, mon travail est là pour montrer aussi mes capacités. Donc, voilà pourquoi j'ai évolué et puis que j'en suis arrivée là maintenant.
Du coup, pour parler justement de cette partie plus prospection, c'est quelque chose où on a parfois du mal.
Oui.
C'est pareil quand on cherche un travail. Hein. En gros, on va prospecter aussi. Donc, il y a un parallèle. Tes clients, ils arrivent parce que par la prospection que tu fais, par le bouche à oreille de tes anciens clients, par les sites internet, que tu as arrivé à savoir à peu près quelle est la proportion de canaux qui arrivent jusqu'à toi?
Alors écoute, moi la prospection c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça, et puis souvent quand on en parle avec mon mari, il me dit « mais tu devrais y aller », je dis « ouais, mais moi j'arrive pas ». Moi j'attends toujours que le client vienne à moi. Non, en fait aujourd'hui moi je suis inscrite sur des sites internet qui recense en fait des offres. Donc, c'est des entreprises qui viennent poster des publications en recherche d'un community manager, d'un site internet. Donc, ça, c'est ma plus grosse source aujourd'hui de clients. En dehors de ça, c'est des centres de formation qui font appel à moi justement pour intervenir dans des entreprises. Donc, ça, c'est mon deuxième. Mm-hmm. Et puis après, il y a toute la partie comme de mom, où là, c'est des femmes entrepreneurs. Ben, c'est par rapport à mes actions, aux actions que je mets en place sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet par le biais de mon référencement, la communication que je fais sur des podcasts et toutes les actions en fait que moi je mets en place dans ma stratégie.
D'accord, donc ça ramène quand même du monde et ça te fait plusieurs types de clients effectivement dans la segmentation.
C'est
ça. Quoi. Ok, en termes de perspective, là tu disais que tu essaies de viser dans des entreprises un petit peu plus grandes que celles que tu connaissais jusque-là. Tu vas continuer, je pense, à accompagner des femmes entrepreneurs qui sont seules à leur compte, des entreprises un peu plus grandes. Tu te sens comment pour attaquer la rentrée? Est-ce qu'il y a déjà des perspectives de ce côté-là? Tu te sens à l'aise pour franchir un cap ou pas?
Eh bien, écoute, j'aimerais bien. J'ai vraiment du mal parce que cette année, pour moi, c'est une année de transition. Parce qu'avant, c'était vraiment que de l'entreprise. Comme j'ai lancé comme de mom au mois de février, j'ai l'impression d'y aller un petit peu à tâtons, tu vois. Je suis en train de prendre mes repères sur comme de mom et sur toute la partie, vraiment, parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur d'accompagner les femmes entrepreneurs, de partager avec elles mes connaissances et de les aider à décoller aussi un petit peu, parce que je sais à quel point c'est un peu dur des fois, tu vois, quand on stagne et qu'on aimerait bien et qu'on met en place plein de choses et que ça vient pas. Donc moi, j'ai vraiment envie d'être là et puis de faire juste un petit ping comme ça, tu sais, avec mes doigts et tout. Vas-y, tu décolles et puis c'est bon. Donc ça, ça me tient vraiment à cœur. Ma perspective, c'est vraiment d'essayer d'aider un maximum de femmes entrepreneurs d'ici à la fin de l'année. Mais en même temps, j'espère réussir à trouver de nouveaux clients, de plus grosses structures aussi, parce que ce sont souvent des projets un peu plus complexes, qui me demandent plus de réflexion, qui sont sur du plus long terme. Et ça, j'aime bien aussi parce que c'est un challenge pour moi.
C'est ce que j'allais dire. On sent bien que voilà, depuis le moment où on parle de ton parcours, là, tu montes d'un cran à chaque fois, tu élargis à chaque fois. Donc, on sent que voilà, la RH, c'était bien. Voilà, on a pris les bases hein, de comment il faut faire pour travailler. Mais aujourd'hui, on a envie d'un peu plus d'ambition. Et moi, je trouve que ça, c'est bien parce que je fais aussi ce podcast, en tout cas, pour créer du contenu pour les auditrices. mais pour montrer aussi que c'est possible. Alors effectivement, je reçois des personnes qui sont entrepreneurs, mais voilà, avant elles étaient aussi salariées et tout ce qu'elles ont appris en salariat, ben, ça oui. les aide aussi à devenir entrepreneurs. Donc parfois il faut ajouter une étape supplémentaire pour acquérir Exactement. Des connaissances qu'on n'a pas, et puis après ça permet de se lancer. Aller plus loin.
Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, je dis toujours que tout ce qu'on fait dans notre vie, que ce soit pro ou perso, ça, on rajoute tout ça à notre bagage et ça va nous aider après encore davantage dans les projets qu'on veut entreprendre.
Et bien, du coup, ça m'amène à la question suivante qui est comment est-ce qu'Aurore, elle s'organise ? Parce que là, depuis que je t'écoute, alors tu t'occupes des entreprises pour les former, les centres de formation, les entrepreneurs, tu es maman parce que c'est de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ton mari et tes enfants, ils sont là tous les jours. Tu as la fée biscotte. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser ? Parce que, bon, on a parlé du fait de se réveiller à 4 heures du matin, mais très franchement, même moi qui suis matinale, pas 4 heures, 5 heures, peut-être 6 heures, peut-être, mais je ne suis pas forcément en état de réfléchir. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser ? Parce que je suppose que tu as dit que tu avais du coup 4
enfants, oui.
4 enfants, et certains vont déjà à l'école, les autres non. Il y a un moment donné, il faut quand même que tu sois disponible, soit pour aller en déplacement chez le client, soit pour être parfaitement concentré sur ce que tu as à préparer.
Mais écoute, déjà moi, depuis toujours, et mes proches pourront te le confirmer, c'est que je suis quelqu'un de très organisé et de très structuré. Donc, je pense que j'ai déjà cette facilité-là parce que j'aime bien que les choses soient carrées et claires, nettes et précises.
Ça aide.
Alors ça aide, tu vois, je ne suis pas freestyle. Donc voilà, mon temps de travail est bien structuré. J'ai des périodes de travail, j'ai des périodes où je suis avec les enfants, avec mon mari, avec la famille. Donc ça, c'est bien, ça permet de garder un certain équilibre.
Oui.
Après, me lever à 4 heures du matin, je l'ai fait pendant des années. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus parce qu'après, avec les petits, comme ils avaient du mal en plus à dormir, crois-moi, 4 heures, ce n'était pas possible. C'était peut-être l'heure où j'allais me coucher. Il y en a un qui se réveillait, l'autre qui réveillait l'autre. Donc non, 4 heures, c'est précieux maintenant. Mais j'ai l'avantage de travailler. J'ai aménagé une pièce chez moi. Donc si tu veux, même je vais les coucher. Il n'y a personne à la maison où tout le monde est occupé. Il n'y a rien à la télé. Allez, hop, je vais gratter une heure de travail.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça. Après, mon mari est posté, donc quand il est là, des fois, il peut prendre la relève sur les enfants, ou alors ça va être l'inverse. Comme il est là, je vais profiter pour passer du temps avec eux. C'est vraiment aléatoire, mais j'ai des périodes, en fait, où les enfants sont à l'école, les deux grands sont à l'école, mm-hmm. et les petits vont à la crèche 3 jours par semaine. Donc là, je sais que c'est à fond. Voilà, je sais que ça, c'est mes 3 jours où je suis vraiment à fond. Et après, le reste, je dis que c'est un peu du bonus. Tu vois, la sieste du mercredi matin ou des choses comme ça, c'est du bonus.
Mais par contre, comme tu disais, comme tu étais quand même quelqu'un d'organisé à la base, tu sais exactement tout ce que tu as à faire. Donc, dès que tu as un créneau, voilà, ne serait-ce qu'une demi-heure où tu peux aller écrire un truc sur un réseau social, tu y vas, quoi.
C'est ça. En fait, si tu veux, pour être franche avec toi, être transparente, j'ai un planning sur Google Drive où j'ai carrément mis dans des couleurs mes temps de travail. Et dans ce temps de travail-là, j'ai mes tâches à faire de manière régulière et mensuelle qui doivent revenir parce que quand je fais les animations des réseaux sociaux pour mes clients, c'est de manière mensuelle. Donc, j'ai un jour où je les rédige. J'ai un autre jour où je vais faire les visuels, où je vais regarder et tout. Et après, j'ai un autre outil où là, j'écris ma to-do list un peu du jour, les petites bricoles qu'il faut que je fasse. Mm-hmm. Et ça, il est toujours ouvert. Comme ça, si jamais j'ai une heure, bon, j'ai pas le temps de faire ça pour mon client, mais je peux faire ça. Et voilà, on optimise à fond, tu vois.
Effectivement, moi j'aime bien aussi fonctionner comme ça, réfléchir comme ça. En ce moment, je suis pas dans une routine, donc je me laisse un peu aller, mais j'aime bien effectivement le fait que ce soit récurrent, que tu le mettes de façon récurrente. Tu sais que tel jour, à tel moment, c'est telle tâche. Du coup, tu l'oublies pas, hein, parce que c'est comme ça. Et puis, j'aime bien aussi cette histoire de to-do list ouverte, parce que pareil, je note tout là-dessus. Et puis après, un quart d'heure, je dois partir dans un quart d'heure, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Là, par exemple, juste avant notre rendez-vous de ce matin, j'ai regardé le podcast, on était à 99 écoutes. J'ai dit non, mais là, il faut passer le 100. Là. Du coup, je me suis précipitée pour faire un rapide post sur LinkedIn en disant faites-moi exploser les chiffres, partagez le lien du podcast parce que ça serait bien de passer les 100 puis de célébrer les 100 parce que ça, c'est le début, mais c'est déjà ça, en fait, sur 3 épisodes.
Bien sûr.
Donc, j'aime bien cette façon de s'organiser. J'aime beaucoup ton parcours parce que moi, j'ai aussi un parcours un peu atypique et j'aime bien cette envie d'apprendre, d'aller toujours plus loin, de se challenger pour pouvoir avancer que tu as. Donc voilà, une bonne demi-heure de discussion avec toi là-dessus, c'est bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites ajouter par rapport à ce qu'on vient d'échanger ?
Juste, si jamais des femmes ou même des hommes entrepreneurs qui acceptent leur part de féminité, peut-être, qui souhaitent échanger avec moi, je suis disponible sur les réseaux sociaux. Il y a mon site internet aussi, vous pouvez voir un petit peu ce que je propose, sachant qu'il y a la prestation de service, mais il y a aussi, même pour les entrepreneurs, la partie accompagnement. C'est la même chose que ce que je propose aux entreprises, mais c'est en individuel. Et là, il y a une problématique, un objectif, gagner en visibilité, générer plus de trafic sur mon site internet, apprendre tout simplement à se servir des réseaux sociaux, et bien là, moi, je fais un accompagnement et permet du coup de passer ce cap difficile. Voilà.
Très bien. On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode, comme merci ça, beaucoup. Tout le monde pourra facilement cliquer. Puis, au moment où on enregistre, tu as prévu un challenge tout début du mois d'août.
Oui, mais la semaine prochaine, voilà. Un challenge Instagram.
Je me suis inscrite, donc
j'ai vu
voilà.
Ça, merci. On va voir l'évolution.
Exactement, parce que ça, je pense qu'effectivement, j'ai préparé des choses, mais j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir aller plus loin. Donc, ce sera avec plaisir que je participerai avec les autres entrepreneurs sur ce challenge.
J'ai hâte de voir l'évolution, parce que le challenge, c'est vraiment pour s'assurer d'avoir mis en place les bases, parce que souvent on est sur les réseaux, comme je disais avant, on publie, mais il y a des choses qui sont à faire avant de simplement publier, et si c'est pas fait, ben on met beaucoup plus de temps, voire on n'arrive jamais à atteindre ses objectifs. Donc là, le challenge va permettre en 5 jours de savoir si tout est bien en place, et après comme ça tu pourras foncer.
Alors même si nos auditrices ne pourront pas participer au prochain challenge, je pense que tu en auras d'autres.
Oui.
Et je pense que c'est important aussi de le faire, parce que parfois on peut avoir un compte perso.
Oui.
Et que voilà, poser les bases, comme tu dis, sur le réseau social pour bien comprendre comment il fonctionne et pouvoir s'en servir. Peut-être pas forcément dans l'immédiat, mais peut-être plus tard, comme tu as fait. Exactement. Avec la Fébiscotte sur le blog et puis la présence sur Insta.
Oui.
Ça a permis d'amener à d'autres projets que ce qu'on a.
Exactement, oui.
Aurore, pour terminer cette interview, j'aimerais bien te poser les 4 dernières questions que je pose à l'ensemble des invités. Quel regard tu as sur le chemin que tu as parcouru ? Qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu n'en retiens pas ?
Eh bien, écoute, je suis quelqu'un d'assez exigeante avec moi-même. Et du coup, quand je regarde le chemin, des fois, je peux me dire « Waouh, j'ai quand même réussi à faire tout ça. » Mais je suis vite rattrapée par un petit démon qui me dit « Ouais, j'ai fait que ça. » Parce que j'ai tellement envie... Enfin, je sais où je veux arriver et puis ça ne va pas assez vite. Voilà, donc... Oui. C'est pour ça.
Donc, c'est pour ça ces envies de challenge, pour justement sauter le pas, avancer encore et toujours.
Exactement.
Bon, malgré tout, tu retiens quand même tout ce que tu as fait, parce que...
Tout ce que j'ai accompli. Voilà, c'est ça. À quelque part, c'est quand même une fierté, parce qu'en étant maman et en ayant réussi à mettre tout ça en place, je me dis quand même, waouh, je peux être fière de moi.
Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Quel conseil tu donnerais à l'adolescente que tu étais ? Qu'est-ce que tu dirais à Aurore quand elle avait 15 ans ? Est-ce que tu savais d'ailleurs ce que tu voulais faire déjà avant de choisir les études que tu as faites ?
Non, parce que quand j'avais 15 ans, je voulais être chimiste.
Rien à voir avec l'ARH.
Non, j'ai fait des études dans la chimie, figure-toi. Hein. Et quand j'ai fait des études dans la chimie, j'ai passé un oral et on m'a dit « Ouais, mais vous avez une aisance pour la soutenance et tout ça, je vous aurais bien vu dans le commerce. » Ah ouais ? Ok. Je suis allée toquer à la porte d'une école de commerce et j'ai fait un BTS dans le commerce, dans le management des unités commerciales.
Oui.
Et quand j'ai fait ma soutenance, on m'a dit « Waouh, je vous aurais bien vu dans les RH. » Les RH, ok. Hop, j'ai fait ma licence dans les RH.
D'accord.
Donc tu vois, c'est pour ça que moi, c'est atypique du début à la fin, quoi. Je pense juste que si je devais me reparler quand j'avais 15 ans, je me dirais que j'aurais dû approfondir, parce que pour la petite anecdote, je me souviens qu'à cet âge-là, on était toute une bande de copains.
Oui.
J'avais mis en place, j'avais trouvé un genre de site internet qui permettait de faire un peu, pas un blog, mais juste une page en fait, où on pouvait mettre en place des photos. Et moi, j'étais allée un peu plus loin, j'avais réussi à lier les pages entre elles, et donc on avait un album photo de nos soirées entre copains et tout, j'avais fait ce truc-là. Et quelque part, je me dis, tu vois, la graine, elle était déjà là.
Oui.
Mais j'y avais pas prêté attention, et ça fait que du coup j'ai fait tout un parcours, mais qui était pas pu peut-être à 15 ans, si je m'étais intéressée à ça, approfondir, et j'aurais gagné du temps peut-être.
Je comprends. Moi, j'adore le cinéma, j'en ai beaucoup fait, j'ai une carte illimitée qui me permet d'y aller quand même très souvent, Et quand j'habitais encore à Lyon, donc il y a déjà plus de 15 ans, au tout début d'Internet, les blogs commençaient à se mettre en place. Et j'avais un blog qui s'appelait Mémo Cinéma, M-O-T-S, cinéma. Et je mettais en fait juste le synopsis du film. Et je mettais un commentaire sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans le film. Donc c'est un truc super court. Mais j'avais 4000 visiteurs uniques mensuels. Ce qui était juste un truc de dingue, un taux de rebond qui est aujourd'hui franchement une honte parce que t'es 100%. Hein. Les gens venaient le mercredi regarder ce que j'avais vu et hop, repartaient. Mais voilà, on était au tout début et à ce moment-là, bah, je suis comme toi, je ne comprenais pas forcément le taux de clic, le taux de rebond, à quoi ça servait tout ça, à quoi ça servait d'avoir des datas. À l'époque, impossible de récupérer les mails des gens, donc c'était pas du tout la même chose. Mais je me dis aussi que voilà, si j'avais poursuivi quand même à chercher à comprendre un peu plus, ben voilà, j'aurais pas autant de retard. Mais bon, j'ai fait un petit détour, on y revient quand même.
ça revient à ce qu'on disait avant, ça fait partie de notre bagage.
Exactement. Quel conseil tu donnerais à celles qui en ce moment hésitent à changer de poste ou d'entreprise ?
Je pense qu'il faut pas. Enfin, qu'il faut s'ouvrir un petit peu l'esprit et pas avoir toujours peur de franchir un cap. Moi, pour avoir eu cet échange une multitude de fois avec mon mari avant de quitter mon CDI, parce qu'il me disait, lui, justement, qu'on ne savait pas où j'allais aller avec mon entreprise et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, même à avoir un CDI, ce n'est pas la sécurité. Avec mon regard maintenant, c'est ça. C'est que ben, demain, on peut aller travailler, puis on est convoqué et puis on nous dit « bon bah écoute, c'est fini, ça marche plus, on arrête là ». Donc je pense que faut pas prendre un CDI pour une sécurité, il faut vraiment regarder toutes les possibilités qui s'offrent à nous et puis surtout s'orienter vers quelque chose qui nous fait vibrer et vers quelque chose qu'on aime faire. Parce que je pense que avec les temps d'aujourd'hui, la situation, même ne serait-ce que la situation actuelle, il faut faire quelque chose qu'on aime et quelque chose dans lequel on est bien, parce que c'est dommage un peu de se gâcher la vie à aller au boulot avec la boule au ventre.
Effectivement, c'est pas toujours évident, mais prendre le temps de réfléchir pour savoir ce qu'on fait, on veut faire exactement, et puis regarder les étapes qui nous sont nécessaires pour aller jusque-là.
C'est ça.
Et dernière question, tu en as un peu parlé tout à l'heure parce que j'avais déjà posé la question d'une façon différente. Quel est ton prochain objectif professionnel et qu'est-ce que tu as besoin pour y arriver ?
Mon prochain objectif professionnel, alors là, au niveau de Comme de Mom, je veux lancer une formation en ligne pour permettre aux entrepreneurs de s'auto-former.
Oui.
Donc ça, je vais en lancer une, mais mon objectif vraiment à plus long terme, c'est de mettre en place une plateforme de formation.
D'accord.
Que les personnes puissent se former et puis trouver de nouveaux clients, de nouvelles entreprises que je peux accompagner.
Donc, juste, je reviens sur la plateforme. Ça veut dire que moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, je pourrais venir sur cette plateforme et choisir la formation qui me convient pour compléter ce que j'ai.
C'est ça. Là, j'ai mis en place une formation qui va sortir prochainement, mais je travaille déjà sur d'autres. Et le but, c'est d'avoir après un catalogue de formations un peu pour permettre d'y aller étape par étape.
D'accord, super. Bah écoute, merci beaucoup Aurore d'avoir pris ces trois quarts d'heure pour discuter avec nous, pour parler de ton parcours. Moi, je trouve ça toujours...
Merci à toi.
Je t'en prie. Je trouve ça toujours intéressant parce qu'effectivement, au-delà de la fonction qu'on a actuellement, eh bien, il y a des histoires derrière et c'est intéressant aussi de savoir que voilà, il n'y a pas de ligne droite, il y a plein de chemins différents, mais on peut arriver exactement là où on souhaite aller.
Exactement, exactement.
Merci à toi et puis à bientôt.
À bientôt, bonne journée.
Merci.
Puisque vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, j'espère que vous allez aussi prendre le temps de vous poser pour planifier la réalisation de vos envies. Si vous avez envie d'augmenter votre visibilité, vous pouvez suivre Noémie Kempf pour le bootcamp sur le personal branding avec The Storyline ou contacter Violaine Capé pour faire le point sur votre Ikigai. Réécoutez les épisodes, cela vous donnera plus d'informations. Si après avoir écouté cet épisode, vous voulez contacter Aurore, vous pouvez passer par son compte Instagram, La Fée Biscotte, et Comme de Mom, suivez les deux car les sujets sont différents, ou directement sur les sites web correspondants de La Fée Biscotte et Comme de Mom. Et voici le lien pour voir le site de Martin Latulippe dont Aurore parle comme un mentor. Un élément important, je vous rappelle que plus le podcast sera de votre 5 étoiles sur Apple Podcasts avec des commentaires, et plus nous aurons d'auditrices. Prenez une minute pour le faire, et encore merci pour votre implication. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez toutes les idées fortes de la conversation, tous les liens pour contacter et suivre notre invité, le lien pour télécharger votre e-book offert, le lien de sondage pour transmettre vos idées et suggestions. Et enfin, Retrouvez monprochainemploi.com sur Instagram pour tout savoir sur le podcast. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et j'espère que vous partagez la même impatience que moi pour un prochain épisode. À bientôt!